Vous êtes sur RTL.
RTL dimanche soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir, c'est parti pour de l'info, des témoignages, des reportages, des invités jusqu'à 19h15. Là, ce sera l'heure de refaire le sport avec Isabelle Langer. À la une ce soir, le deuil national en Russie et le grand soupçon de la manipulation 48 heures après l'attaque terroriste du Crocus City Hall. Le Kremlin ignore toujours les revendications de Daesh et impose sa lecture d'une responsabilité ukrainienne. C'était donc une journée de deuil national. Le bilan de l'attaque terroriste est désormais de 137 morts, dont 3 enfants. Une centaine d'établissements scolaires ciblés par des menaces d'attentat pour demain, lundi, dans les Hauts-de-France, après le piratage informatique de leurs espaces numériques de travail, scénario identique à celui qui s'était produit il y a quelques jours en Île-de-France. Mais des parents, évidemment, se demandent s'ils doivent mettre leur enfant à l'école demain. Dans l'actualité de ce dimanche soir également, l'avertissement de François Bayrou au gouvernement face au déficit. Attention, dit-il, de ne pas casser ce qui reste de croissance. Emmanuel Macron en Guyane demain pour 2 jours, sans illusion pour les Guyanais. Et puis cette dernière minute, la France met en place des vols spéciaux vers Haïti pour rapatrier ses ressortissants vulnérables dans ce pays qui est, vous le savez, au bord du chaos. Le foot et les Bleus, ils sont où? Pourquoi était-il méconnaissable hier soir face à l'Allemagne? Faut-il s'inquiéter? On demandera à Philippe Sanfourche. Le quintet d'Auteuil, 14, 8, 12, As et 7. Dans 20 minutes, nous serons au cœur de la création, celle de Grand Corps Malade qui s'est confié à Xavier Demoulin. Le ciel demain, Valérie Quintin, du soleil et de la fraîcheur.
Avec quelques gelées au réveil, jusqu'à moins 4 degrés à Aubusson dans la Creuse, moins 1 degré à Annecy, 0 à Beauvais. Mais c'est aussi parce que le ciel sera clair que les températures seront si basses. Dans l'ensemble, la journée sera bien ensoleillée. Il faudra quand même compter sur un changement en fin d'après-midi avec des pluies dans le Finistère, le Morbihan, les Côtes d'Armor et puis de l'autre côté du pays. Quelques remontées pluvieuses également près des Pyrénées et en Méditerranée. Les températures de la journée seront stables, comprises entre 11 et 21 degrés de la Bretagne au Pays Basque. Et puis ensuite, les choses pourraient se compliquer dans le sud mardi avec de fortes pluies près des Cévennes en particulier. Les passages pluvieux vont se succéder pratiquement toute la semaine partout en France, mais en perdant en intensité. Quant aux températures, elles remonteront à partir de vendredi seulement.
Merci Valérie. À 18h30, le MAC du dimanche avec ce soir deux invités. Jean-Louis Bourlange, le député Modem et président de la commission des affaires étrangères. Le grand soupçon de la manipulation en Russie, mais aussi le Modem, 3 ans de plus pour François Bayrou et le déficit qui doit trinquer. Et puis les dossiers noirs du handicap, scandale et défaillance de l'État ce soir sur M6. De quoi être révolté vraiment, et on recevra la réalisatrice de ce documentaire, Esther Goldman. Enfin, à 18h50, comme chaque dimanche, on refera la planète avec Alain Bougrain-Dubourg qui viendra avec cet animal à découvrir. Vous avez peut-être une idée? La réponse, ce sera avant 19h.
RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
Mais avant tout cela, un rêve olympique. Vous savez qu'à partir du mois de mai, 11 000 porteurs de la flamme se relaieront de Marseille à Paris pour célébrer l'arrivée des Jeux en France. Tous, et notamment les personnalités qui feront les tout derniers relais, n'ont pas encore été révélés. Mais on sait désormais que Daniel Rebiffet en sera. Signe particulier de ce monsieur. Il a 99 ans et il a déjà porté la flamme olympique en 1948, aux Jeux de Londres.
Oui, 76 ans après avoir participé au relais lors des JO de Londres en 1948, Daniel Rebiffet, 99 ans, va à nouveau porter la flamme en juillet prochain. C'est un courrier signé du président du COJO, Tony Estanguet, qui lui a annoncé la bonne nouvelle.
Ça a été quelque chose de très émouvant. Je vous ne cache pas, j'ai eu la larme à l'œil.
Pour cet ancien athlète devenu membre de la garde républicaine, le symbole est fort.
Il y a une occasion unique de transmettre aux jeunes générations ce qui s'est passé après 5 années d'occupation. 24 coureurs qui, avec des bouts de ficelle, avons été de la frontière suisse à la frontière luxembourgeoise, faisant 550 km en France, nuit et jour, accompagnés seulement d'un motard devant, un motard derrière, sans médias.
Et à l'époque, le flambeau, fabriqué en fonte et en aluminium, n'était pas léger.
On ne pouvait pas la porter trop près de notre corps, il fallait tendre le bras. Et au bout de 2 km, ça pèse très lourd. Mais on ne sentait pas notre fatigue, même si quand nous sommes arrivés, nous avions les filles qui avaient doublé de volume.
Daniel portera la flamme à Étampes, où il est né il y a presque 100 ans, un autre symbole.
Reportage signé Christian Panvert.
RTL dimanche soir.
Et donc, après l'Île-de-France, c'est au tour de la région Hauts-de-France d'être concernée par des menaces d'attentats contre des établissements scolaires. Là encore, les auteurs des menaces ont piraté le système informatique des collèges et des lycées avec cette formule reçue dans la plateforme de communication en ligne pour les enseignants, les parents et les élèves. Lundi, 122 établissements vont exploser. Jeudi dernier, déjà, un message similaire avait visé des établissements de région parisienne. Alors bien sûr, on sait que les alertes à la bombe dans les établissements se multiplient, notamment depuis la mort de Dominique Bernard à Arras, qu'il ne s'agit que de menaces. Tous les établissements du nord de la région Hauts-de-France seront ouverts demain. Mais écoutez Amandine Ververde, elle est la déléguée FCPE du département du Nord et elle est elle-même mère de 3 enfants au collège et au lycée.
On sent bien que ça a des effets anxiogènes au niveau des parents et des élèves, certains élèves qui ont eu accès à quelques messages. On a les proviseurs et les directeurs des écoles, collèges et lycées qui ont pris les choses en main. Donc le rectorat a pris des mesures, on veut leur faire confiance. Maintenant, on sent que chez les parents, c'est quand même très, très inquiétant. On va surtout tenter de communiquer un maximum avec les parents pour savoir essayer de calmer un petit peu aussi ce côté qui est très, très anxiogène. Là, on va en savoir plus, je pense, demain. Hein. Tout le monde va être demain matin sur le front. Après, on reste des parents comme les autres parents, on s'inquiète également et puis on essaye de faire confiance au chef d'établissement au maximum. Oui, on va les contacter demain matin très tôt afin de voir ce qui est mis en place. On était déjà sur un niveau haut au niveau de la surveillance et je pense que là, on va être au maximum demain matin.
Amandine Ververde, la déléguée FCPE du département du Nord, elle était avec Élie Bonin. 48 heures après l'attaque terroriste du Crocus City Hall qui a fait au moins, selon le dernier bilan officiel, 137 morts, dont 3 enfants et plus de 150 blessés dans la banlieue de Moscou. De nombreuses questions restent en suspens. On va bien sûr y venir dans quelques instants. Mais ce dimanche était une journée de deuil dans toute la Russie. Célestin Bougère, bonsoir.
Bonsoir.
Cette journée, elle a d'ailleurs aussi permis de mettre en lumière un héros. Hein.
Oui, Islam, un jeune garçon de 15 ans. Il travaillait au vestiaire du Crocus le soir de l'attaque. Interrogé par l'agence russe RIA Novosti, il raconte comment il a orienté des dizaines de personnes vers les sorties de secours.
J'ai entendu les tirs, j'ai crié à tout le monde « Ça tire, courez vers là !» J'ai aperçu un des terroristes avec son arme. J'ai fait mon travail, je ne me considère pas comme un héros. C'est mieux de se sacrifier que de laisser mourir sans personne.
Aujourd'hui, il a été accueilli comme un héros par les joueurs de football du Spartak Moscou, à qui il a raconté son histoire.
Et puis c'était donc un dimanche de deuil national.
Oui, sur place, tous les spectacles, les événements sportifs ont été annulés. J'ai pu discuter avec Romanova et Katerina, journalistes russes à Moscou. Elles racontent une ambiance morose où les Russes ont voulu rendre hommage aux familles décédées.
Ils apportent des bougies et des jouets pour soutenir les gens qui ont perdu des proches. Il y a tellement de fleurs que l'on peut voir près du Crocus.
Ce qui interpelle aussi la journaliste, c'est à quel point la sécurité a été renforcée.
À Moscou, il n'y a pas de restriction de déplacement, mais je peux voir tellement de policiers, tellement de forces spéciales partout dans la rue. La sécurité est renforcée et je me sens plutôt en sécurité maintenant.
Selon Romanova et Katerina, pourtant beaucoup de moscovites ont encore peur aujourd'hui d'une nouvelle attaque.
Célestin Bougère, à noter que le pape François a adressé ses prières aujourd'hui, je le cite, aux victimes de ce lâche attentat terroriste. Reste bien sûr les questions sur les auteurs de cette attaque terroriste, sur les commanditaires, sur les conditions de l'attaque, sur l'action tardive des services de sécurité et sur ce qui ressemble fort à une grande opération de manipulation de l'opinion, même si, bien évidemment, il y a les faits, l'attaque, les tirs, l'incendie, le bilan, 137 morts, plus de 150 blessés, et cette revendication du groupe État islamique au Khorasan, la branche afghane de Daesh. Ce matin sur RTL, l'historienne et spécialiste de la Russie, Galia Ackermann, émettait, vous allez l'entendre, plus que des doutes sur la version officielle.
Je crois même qu'il y a eu peut-être une complicité des services secrets russes. Une salle avec un concert pour 6200 personnes n'était absolument pas gardée. On voit sur les premiers vidéos que l'énorme place devant l'entrée principale était totalement déserte. Les terroristes parcourent 200 mètres, personne ne les arrête. Les unités spéciales arrivent sur place pratiquement une heure après le début de la fusillade. Les portiques détecteurs de métaux, ce jour-là, comme par hasard, ne fonctionnent pas, alors que les autorités russes ont été prévenues par les Américains et par 6 autres pays de l'imminence d'attaques terroristes.
Voilà, l'historienne et spécialiste de la Russie, Galia Ackermann, ce matin sur RTL. Bonsoir Nicolas Burnan.
Bonsoir.
C'est vrai que ce soir, 48 heures après, on ne sait plus que croire et qui croire.
Oui, car à chaque attentat en Russie, son lot de théories et de thèses conspirationnistes. À Moscou, aucun habitant n'a oublié cette nuit du 13 septembre 99. Dans la capitale, une charge de 300 kilos de TNT souffle un immeuble de 8 étages. 120 personnes sont tuées dans leur sommeil. Quelques jours plus tôt, près de 90 habitants avaient également trouvé la mort dans l'explosion d'une autre barre d'immeuble. À l'époque, ces attentats sont rapidement attribués aux terroristes tchétchènes, prétexte au déclenchement d'une opération spécial contre les séparatistes, mais certains y ont vu la main du FSB, les services de sécurité russes, afin de favoriser déjà l'ascension et la popularité de Vladimir Poutine, qui n'est alors que Premier ministre.
En tout cas, cette fois-ci, Nicolas Burnan, ce qui semble clair, c'est que le Kremlin a été pris au dépourvu.
Oui, l'État islamique a été obligé de revendiquer à deux reprises cet attentat pour mettre fin à la propagande des médias d'État. Des terroristes ont été capturés vivants, une précaution rare en raison sans doute de la nécessité de mener des interrogatoires poussés. Vladimir Poutine a attendu aussi avant de s'exprimer. Reste désormais la vérité que s'efforce d'imposer le président russe en accusant indirectement son ennemi, l'Ukraine, d'être derrière cet attentat et surtout ce qu'il fera de cette opportunité. Par exemple en lançant une nouvelle offensive sur le terrain contre Kiev ou en annonçant une nouvelle vague de mobilisation militaire dans le pays.
Nicolas Burnan qui revient, vous le savez, de Russie où il a couvert pour RTL la réélection de Vladimir Poutine. La Russie, il en a largement été question au grand jury RTL Le Figaro M6 Paris 1ère puisque Bernard Guetta, député européen Renew, le groupe centriste libéral, en était l'invité. Bernard Guetta, ancien journaliste, spécialiste de géopolitique, qui estime que les conséquences de tout cela sont sans doute imprévisibles. Il évoque même une dislocation possible de la Fédération de Russie.
Vladimir Poutine, non seulement est en train de détruire systématiquement l'Ukraine, mais il est en train de faire exploser la Fédération de Russie. Et personne ne peut se réjouir de cette perspective parce qu'une explosion de la Fédération de Russie, qui à mon avis va bientôt être en train, et peut-être a-t-elle commencé avec l'attentat de vendredi soir, eh bien une explosion de cette fédération, cela signifie une guerre civile de plusieurs décennies aux confins de l'Europe, de l'Asie et du Proche-Orient. Il est urgentissime d'arrêter cet homme, de l'empêcher de nuire. Alors, véritablement, cet homme est un danger public, Vladimir Poutine.
Bernard Guetta, donc au grand jury RTL Le Figaro M6 Paris 1ère. Une courte pause et à suivre dans RTL dimanche soir, la mise en garde de François Bayrou sur le déficit, la Guyane qui n'attend pas grand-chose de la visite d'Emmanuel Macron. Mais aussi des bleus en dessous de tout. Hier soir, des garçons de café dans la course et des chocolatiers débordés. A tout de suite.
Vincent Parisot. RTL dimanche soir. Entra. RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
François Bayrou, vous le savez, a été réélu sans concurrence pour 3 ans à la tête du Modem lors du congrès du parti à Blois. Occasion pour le maire de Pau de revenir aux fondamentaux du parti centriste, la proportionnelle aux législatives. Nous allons y arriver, dit-il, évoquant même l'hypothèse d'un référendum. Et puis, autre dossier traditionnellement privilégié au Modem, la lutte contre les déficits. Sujet d'actualité et même d'urgence pour le gouvernement qui doit annoncer des mesures pour un déficit annoncé la semaine prochaine, sans doute supérieur à 5,5%. Marie-Bénédicte Allaire, François Bayrou a mis en garde le gouvernement sur le thème « Faut pas casser la croissance
». Bah oui, vous savez, le chrétien démocrate François Bayrou fait de la dette une faute morale, un fardeau qu'on laisse aux générations qui nous suivent. Mais à l'heure où Bercy avertit qu'aucun secteur ne sera épargné par les économies, le haut commissaire au plan distille ses conseils.
Je pense qu'il est vital que nous ne cassions pas la croissance brutalement aujourd'hui. On a besoin de reconstruire, ça se fait par la croissance, et la croissance doit être le premier but des finances publiques aujourd'hui.
Et la croissance, ça permet aussi mécaniquement de réduire le pourcentage de la dette. Alors pour François Bayrou, il faut donner la priorité à l'investissement, à l'activité, à la simplification des normes. Et il laisse à ses proches le soin de prôner la taxation des super-profits des entreprises ou l'augmentation des prélèvements sur le patrimoine des plus aisés, alors qu'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, eux, excluent une hausse des impôts.
Marie-Bénédicte Allaire, les déficits, on y reviendra donc avec le député Modem Jean-Louis Bourlange, qui sera notre notre invité après 18h30. On parlera de la Russie également, puisqu'il est président de la Commission des Affaires étrangères. Et puis Raphaël Glucksmann, tête de liste pour le PS et Place Publique, s'est lancé aujourd'hui dans la bataille des européennes avec un grand meeting près de Toulouse. Il sera demain l'invité du grand jury des auditeurs d'RTL à partir de 13h avec Éric Brunet. Vous pourrez donc lui poser toutes vos questions à Raphaël Glucksmann en faisant le 32-10. Emmanuel Macron, lui, est attendu en Guyane demain pour un déplacement de 36 heures où il sera question de l'évolution institutionnelle vers une autonomie du territoire, mais aussi de sécurité, d'orpaillage, de pêche, d'agriculture. Ce sera sa deuxième visite, la première fois en 2017. Il avait un peu, disons, crispé les Français de Guyane avec cette formule « Je ne suis pas le Père Noël ». Résultat, eh bien cette fois, les locaux n'attendent pas grand-chose de sa venue dans un territoire qui a voté, on le rappelle, à 60% pour Marine Le Pen en 2022. Sur place, l'envoyé spécial d'RTL, Thomas Després.
Oui, malgré des bancs publics repeints pour l'occasion, c'est peu dire hein, que la venue du président risque de ne pas déplacer les foules.
Pour moi, personnellement, il ne serait pas venu, ce serait mieux.
Daniel habite en Guyane depuis toujours et il se souvient de la dernière visite d'Emmanuel Macron il y a 7 ans. Pour lui, sans résultat.
Il y a pas mal de sujets qui ont été discutés et qui ne sont pas respectés, au fait.
Une préoccupation numéro une ici, hein, sur le marché de Cayenne, l'insécurité. En Guyane, les tentatives d'homicide sont 10 fois supérieures à la moyenne nationale.
On ne peut pas marcher, on nous braque. Tu vas marcher avec une chaîne, tu n'as pas le droit. Tu mets un sac, on coupe derrière ton dos, on part avec tes affaires. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Non, on ne peut pas.
Parmi les causes souvent évoquées, les trafics en tout genre, mais aussi la pauvreté. Des questions au cœur du déplacement d'Emmanuel Macron, avec dès demain une visite consacrée à la lutte contre l'orpaillage illégal. Même si ici, hein, on n'a pas oublié qu'en 2017, le président avait assumé de ne pas être un Père Noël et avait fâché beaucoup de monde.
Thomas Després en Guyane et qui vous fera vivre bien sûr sur RTL cette visite d'Emmanuel Macron de 36 heures. Une courte pause et puis dans un instant, retour sur le match des Bleus. Bleu très pâle, limite transparent et inquiétant.
RTL dimanche soir avec Vincent Parisot. RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
Ah, c'est ce qui s'appelle tomber de haut, hein. L'équipe de France de foot, grande favorite sur le papier de l'Euro 2024 qui débutera dans moins de 3 mois, n'a pas fait le poids hier soir à Lyon face à une Allemagne que l'on disait pourtant convalescente, car au-delà de la défaite 2-0, au-delà de ce premier but encaissé à la 8e seconde, eh bien, on n'a rien vu, ou alors très peu, pendant un petit quart d'heure en fin de première mi-temps. Alors bien sûr, c'était un match amical, bien sûr, il y avait des absents, bien sûr, vaut mieux que ça arrive aujourd'hui que pendant l'Euro, mais quand même, bonsoir Philippe Sanfourche. Il y a des motifs d'inquiétude, hein.
Oui, clairement, défaut de concentration, d'engagement, absence de complicité sur le terrain. Les Bleus ont failli dans à peu près tous les secteurs. L'histoire d'un match sans, espère Didier Deschamps, qui connaît bien son groupe et ne veut pas déjà l'accabler.
L'état de fatigue est quand même assez important, peut-être aussi arriver hein, de se relâcher aussi un peu psychologiquement. Donc c'est difficile de ressortir des performances individuelles après un tel match collectif.
Pas d'inquiétude, du moins apparente sur le long terme, non plus chez Adrien Rabiot, le milieu de terrain des Bleus.
Non, bien sûr, confiant. Le groupe, il n'a pas changé. C'est les mêmes joueurs pratiquement qui étaient là à la Coupe du Monde, qui ont bien fait sur ces deux dernières années. Il n'y a pas à s'inquiéter, seulement savoir qu'il faut prendre les matchs avec un autre état d'esprit, respecter l'adversaire surtout, et puis continuer à bosser.
Voilà, bosser. Les Bleus qui s'entraînent en ce moment même hein, sur la pelouse du Groupama Stadium où ils ont passé leur sale soirée d'hier avant de rejoindre Marseille demain pour préparer cette rencontre de mardi soir face au Chili qui revêt désormais un tout autre enjeu pour tenter de rassurer tout le monde.
Voilà, ce sera un match de rattrapage. Merci beaucoup Philippe Sanfourche. Le sport, c'est aussi la victoire du Danois Pedersen pour la deuxième fois d'ailleurs dans sa carrière dans la classique des Flandres Gent-Wevelgem. Il a battu sur la ligne Mathieu Van Der Poel. Le rugby top 4, gros match ce soir à 21h entre Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain. Et puis en ski alpin, il y a eu l'annulation de la descente aujourd'hui, la dernière de la saison en Autriche à Salzbach, ce qui veut dire que Odermatt remporte le petit globe devant le Français Cyprien Sarrazin. Enfin, en tennis de table, eh bien, victoire au championnat de France d'Alexis Lebrun. Il a battu qui? Devinez, son frère Félix. Alexis Lebrun qui sera tout à l'heure dans On refait le sport avec Isabelle Langer. Ça c'est... Bon, c'est presque du sport. Paris célébrait aujourd'hui le retour d'une institution, d'une course mythique, celle des garçons de café dans les rues de Paris, copiée dans le monde entier. Elle avait disparu depuis 13 ans pour des raisons budgétaires. Finalement, on a trouvé l'argent pour faire renaître cette épreuve créée au début du XXe siècle et que le monde entier nous envie. Sur le plateau, un café, un verre d'eau, un croissant et surtout, on ne court pas. Vous y étiez, Vincent Serrano.
Oui, sur la ligne de départ et d'arrivée, une boucle de 2 km entourée par des centaines de spectateurs amusés comme Ludovic de voir défiler comme ça devant lui des chemises blanches et le papillon dégoulinant de sueur.
C'est trop drôle, c'est trop bien de voir des gens avec un travail difficile s'amuser comme ça sur 2 km à Paris, dans une petite course un peu dont on n'a pas l'habitude de voir quoi.
À chacun sa technique, hein.
C'est ça, ouais.
Mais beaucoup de spectateurs ont pris ça très au sérieux comme ces deux copines venues spécialement de Belgique pour l'occasion.
Ah moi j'adore, c'est la tradition, c'est tout Paris ça. Être en terrasse sur un café, rien de mieux dans le monde, non je crois.
On arrête de dire que les garçons de café sont pas sympas, je les trouve extraordinaires en tant que touriste. Hein.
Une ferveur populaire qui aura beaucoup touché Romain, l'un des 300 garçons de café qui participaient.
On a bien vu aujourd'hui l'accueil des Parisiens et des touristes tout au long du parcours sur les 2 km. C'était que des applaudissements, c'était que des encouragements. C'est beau, ça montre qu'on est un métier d'accueil.
Ça va, votre verre d'eau est encore assez rempli?
Je me débrouille plutôt pas mal, j'avoue.
13 minutes, 30 secondes, c'est le temps du vainqueur. Chrono accessoire pour les participants, souriants et contents de pouvoir boire le verre d'eau et manger le croissant à la fin de la course.
Oui, bien sûr, le garçon de café est souriant, on le sait, et on n'oublie pas le service. Merci Vincent Serrano. Dimanche prochain, ce sera l'ouverture de la chasse aux œufs, bien sûr, exercice familial qui dépasse aujourd'hui la tradition religieuse chrétienne qui veut que les cloches de Pâques venues de Rome apportent les chocolats dans la nuit précédant le dimanche de Pâques. 15 000 tonnes de chocolat sont consommées chaque année en France durant les 3 jours du week-end pascal. Alors évidemment, en ce moment, dans les labos des chocolatiers, on ne chôme pas. La preuve chez Gartiobadi, c'est une institution bordelaise, bientôt 2 siècles d'existence. Reportage Clara Echari.
Quand on pose un pied dans le laboratoire Cadiobadi, on est accueilli par une bonne odeur de chocolat et par des chocolatiers qui s'activent dans tous les sens.
Bien sûr, c'est le grand rush.
Sandra Mourton est responsable des boutiques.
À tel point que nous recrutons donc pour le renfort une douzaine de personnes sur l'ensemble des sites.
Pour les chocolatiers comme Alexandre, il reste encore des moulages à faire.
On vient mettre du chocolat dedans, on fait 2 couches pour que ce soit suffisamment épais parce que les filles vont venir ensuite mettre de la friture et des œufs à l'intérieur.
Poule, lapin, cloche bien sûr, mais aussi une nouveauté, cette année les Cadio Surprises que nous décrit Valentin, lui aussi chocolatier.
Il y a une première couche qui est faite avec du beurre de cacao, donc c'est tamponné. Derrière, il y a une première couche en chocolat blanc. Ensuite, une couche chocolat noir ou chocolat au lait. À l'intérieur, on va le garnir d'un loustic, une petite pièce en chocolat avec du praliné à l'intérieur. On va rajouter des œufs pralinés, de la friture.
Et ces cadeaux surprises demandent beaucoup de travail.
Là, actuellement, j'en ai qui sont déjà moulés, donc ils sont prêts. Il va falloir encore les garnir, les coller et les mettre sur pied avant de les envoyer au magasin.
Et dès que Pâques sera passé, les chocolatiers commenceront à imaginer les créations de Noël.
Cœur de la création, c'est votre rendez-vous du dimanche soir. Xavier Demoulin nous emmène ce soir avec un chanteur, réalisateur, 17 ans de carrière, et oui déjà, 8 albums, bientôt 3 films. Vous l'avez reconnu, Grand Corps Malade, il fait un triomphe avec son nouvel album Reflet. Il termine la première partie de sa tournée. Il sera sur la route des festivals Le Roi du Slam avant la reprise de ses concerts et avant l'octobre, la sortie de son 3e long métrage, donc le très attendu Monsieur Aznavour avec Tahar Rahim dans le rôle de Charles Aznavour. Chez Grand Corps Malade, la création, ça ne s'arrête jamais. Sa marque de fabrique, l'optimisme, écoutez.
Des fois, on me l'a reproché.
Ouais. Et plus aujourd'hui, on vous le reproche moins aujourd'hui.
Peut-être, c'est vrai.
Ouais, peut-être besoin. Ouais, vous aviez un coup d'avance sur l'époque.
J'avais un coup d'avance. Non, mais de toute façon, je vais pas faire le chanteur cynique alors que je ne le suis pas. Je veux pas faire le mec dark alors que je ne le suis pas. Je veux pas tricher. Moi, quand j'écris, j'essaie de mettre de moi. Et s'il y a de l'optimisme, c'est que ça fait foncièrement partie de moi. Après, il y a des thèmes qui se prêtent plus à l'optimisme. Sur l'album, là, mon dernier album, j'ai un morceau qui s'appelle 2083. Ce qui parle de l'enjeu écologique, j'imagine mon petit-fils virtuel qui est en 2083 et qui m'écrit une lettre pour me raconter l'état du monde.
Et ça, c'est positif.
Ben,
on écoute.
On écoute, Fred. Cher Fabien, tu me connais pas encore, je suis ton petit-fils. Je t'écris depuis l'année 2083. Je te passe ce message afin que ton époque réagisse. Ici, la planète va mal, il faut absolument que tu me croies. Jakarta, Lagos, New York ont disparu sous la mer, mais aussi Venise, Londres et un tiers des Pays-Bas. Tombouctou et le Nord Mali ensevelis sous le désert, et le fleuve Niger n'a plus une seule goutte d'eau dans ses bras. Les villes côtières qui luttent contre la montée des eaux ont beau construire des digues, des barrages et des murailles, elles ne pèsent pas bien lourd et éclatent vite en morceaux quand les cyclones et ouragans viennent finir le travail.
Et là, Fabien, on parlait d'optimisme, c'est une photographie ultra flippante de 1983, sauf que le morceau appelle à agir maintenant et explique que c'est pas trop tard. Mais le constat que vous faites, c'est limite du journalisme d'anticipation. C'est très journalistique, en fait.
Ouais, c'est
parce
ça.
Que l'actualité aussi, c'est quelque chose...
Ah ouais, j'ai toujours... Je suis pas un artiste dans ma bulle, loin des enjeux actuels ou loin des sujets de société. Voilà, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Patrick, qui était une espèce d'ode à Patrick Balkany. Mmh. Des choses très terre à terre. J'avais écrit une chanson qui s'appelait Éducation nationale, qui était un constat pareil, pas très positif sur l'éducation à deux vitesses selon là où tu habites.
Je dirais éditorialiste plus que journaliste d'ailleurs.
Ouais. Et là, 2083, ouais, c'est... j'ai pas évidemment tout inventé, j'ai lu des choses, des rapports du GIEC, j'ai parlé à des spécialistes pour pas dire n'importe quoi, mais ce qui se passe dans 60 ans dans ce texte-là, malheureusement, ça peut vraiment arriver et pour l'instant, on y va tout droit. Donc
ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est parti de l'optimisme, on arrive à ça, vous servez de ça pour dire c'est pas foutu, c'est maintenant qu'il faut se bouger les amis, et ça sert à ça l'art et la création. Ça sert aussi à mobiliser quoi.
Bien sûr, à alerter, à sensibiliser, évidemment, il faut rester humble, hein. C'est pas ma chanson qui va faire que d'un seul coup tout le monde s'empare du sujet partout en France ou dans le monde. Et évidemment qu'on garde de l'humilité, mais ça veut pas dire qu'il faut pas essayer d'alerter à son niveau. Et que moi, l'album s'appelle Reflet parce que c'est un peu un album aussi sur le reflet de ce que je suis, mais aussi le reflet de notre société, de notre monde aujourd'hui. Et je pouvais pas imaginer en 2023 faire un album sur notre monde sans parler de cet enjeu écologique. Et en 2023, si tu parles du monde et que tu parles pas de cette urgence-là, tu passes à côté quand même d'un thème primordial.
Quand vont-ils déclarer l'état d'urgence climatique mondiale et contraindre les pays sur leurs émissions de CO2? Quand vont-ils rendre toute déforestation illégale, investir massivement pour consommer moins, consommer mieux?
Au cœur de la création de Grand Corps Malade avec Xavier Demoulin, vous retrouvez l'intégralité de cet entretien sur RTL.fr et l'appli RTL. Vous tapez création dans la barre de recherche et puis à partir de mercredi, les coups de cœur de Grand Corps Malade à retrouver évidemment en podcast. Il va être 18h30, une courte pause et on ouvre le Mac du dimanche. À tout de suite.
RTL Dimanche. RTL, le Mac du dimanche, avec Vincent Parisot.
Au menu de ce Mac du dimanche, deux invités. Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, député Modem. La Russie, 48 heures après l'attaque, au-delà du choc et du deuil, les faits qui posent question et ce sentiment d'une grande manipulation, mais aussi la réélection sans opposition de François Bayrou et la réduction du déficit. Où doit-on chercher l'argent? Et puis ensuite, Esther Goldman, elle est la réalisatrice d'un documentaire choc diffusé ce soir sur M6 dans Zone Interdite, Les dossiers noirs du handicap, scandale et défaillance de l'État. Et je peux vous le dire, le constat est révoltant. Bonsoir Jean-Louis Bourlange.
Bonsoir.
Vincent Parisot. Député Modem des Hauts-de-Seine, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée. Justement, avant de parler Modem et François Bayrou et parler du déficit, votre regard de président de la Commission des Affaires étrangères sur cette attaque terroriste de vendredi soir, mais surtout de la lecture qui nous en est donnée par Vladimir Poutine, à savoir l'Ukraine est dans le coup.
Oui, moi je suis extrêmement prudent sur tous ces événements sur lesquels nous avons quand même très peu d'informations fiables. D'abord, l'affaire est effroyable et je crois que les Russes ont été profondément touchés et que nous qui avons vécu le Bataclan, nous devons comprendre quelle est la douleur des Russes. Deuxièmement, qui est responsable? Daesh a revendiqué cet attentat.
À deux reprises.
On peut penser, certains disent évidemment que c'est, comme ça a été le cas dans plusieurs occasions précédentes, que ce sont les services russes eux-mêmes qui ont créé une affaire de cet ordre. Pourquoi pense-t-on ça? À cause de la date. Ça coïncide avec l'élection, la réélection de Poutine, avec l'intensification des opérations en Ukraine, la transformation de l'opération spéciale en guerre. Donc on a l'impression que on est dans une phase d'agressivité et ça sert évidemment la mobilisation. question de la mobilisation du peuple russe derrière le tsar. Cela dit, il y a des choses qui vont... Alors, ce qui va dans ce sens, c'est qu'effectivement, aucune précaution n'avait été prise. Et alors que Poutine accuse l'Ukraine, c'est absolument évident, ça n'a aucune valeur.
C'est pour mobiliser, faciliter une deuxième phase de mobilisation.
Oui, en tout cas, il l'exploitera de façon opportuniste, c'est évident, il est fait comme ça, et c'est une occasion à laquelle il ne résistera pas. Simplement, ceux qui militent dans une interprétation dans laquelle il n'est pas à l'origine de cette affaire, ni les Ukrainiens d'ailleurs, c'est les informations venant des services américains qui avaient tenu à informer les Russes de l'imminence d'un type de menace. Donc les services avaient capté un certain nombre de messages, d'informations qui effectivement authentifient en quelque sorte indirectement la piste Daesh. Donc on n'en sait rien. Ce qui est clair, c'est que tout ça est très mauvais en termes d'intensification de la guerre en Ukraine. Nous croyons, je crois que là le président de la République avait, semble-t-il, assez bien perçu même si on peut discuter telle ou telle de ses formulations face à cette situation, il avait assez bien perçu l'aggravation prévisible de la situation. Je crois que les Russes sont engagés dans une phase où ils vont monter un cran supplémentaire, peut-être deux crans supplémentaires dans leur politique en Ukraine.
L'aggravation à laquelle on assiste actuellement. Bernard Guetta, qui est député européen Renew. Alors, on va dire, c'est assez proche quand même du modèle.
Ah oui, mais c'est non seulement c'est proche, mais...
C'est la même boutique, on va dire.
On a suivi tout ce qu'il a fait.
Il était l'invité du grand jury aujourd'hui. Il nous a éclairé, effectivement, parce qu'il est spécialiste de géopolitique, et il a évoqué une possible dislocation de la Fédération de Russie. Vous êtes aussi pessimiste que lui ?
Oh, je suis un beaucoup moins bon connaisseur des réalités russes que lui. Lui, d'abord, il faut toujours savoir que Bernard Guetta a été, au moment de la libération de la Pologne, pendant l'état de siège, les 10 ans d'état de siège en Pologne, il était là-bas. Et donc, il voit très bien ce que c'est que le système soviétique et par définition, le système post-soviétique. Simplement, Bernard, c'est un optimiste fondamental. Et il croit peut-être...
C'est pas très optimiste, le scénario qui nous a servi. Parce que la dislocation de la Russie, il nous a dit, on en prend pour 20 ans ou 30 ans d'instabilité.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est un risque. En tout cas, le danger, le problème de la dislocation est posé. C'était la grande crainte d'Henry Kissinger. Dans ses dernières années, il disait que ça pouvait être une gigantesque Yougoslavie, en vérité. Et ça, effectivement. Mais je pense que Bernard Guetta, alors je ne sais pas s'il a raison, mais il a un peu tendance à considérer que ça ne va pas tenir du côté des Russes. Or, effectivement, l'appareil répressif de M. Poutine est très solide et donc il est capable, à partir du moment où il a une capacité de violence illimitée, de tenir quand même les forces en main.
Alors, retour en France, retour au Modem. Vous rentrez d'ailleurs à l'instant de Blois.
Je rentre de Blois.
Vous avez assisté au congrès, marqué par la réélection de François Bayrou, seul candidat. Vous aviez eu des mots assez durs lorsqu'il a refusé d'entrer au gouvernement. Vous lui reprochiez son incohérence, l'absence de concertation. Aujourd'hui, tout est oublié. Oui, embrassons-nous, Folleville.
J'ai avec François Bayrou une relation très intime, très confiante, très tumultueuse. Ouais. Je ne l'ai pas suivi quand il a fondé le Modem, parce que j'ai trouvé que c'était très téméraire. Je crois que j'avais raison. Je l'ai en revanche un peu précédé dans le soutien à Emmanuel Macron. Mais là, ce que je crois que... si vous voulez, ce qui s'est passé chez Bayrou, c'est qu'il a été pendant sept ans interdit d'être un homme politique à part entière.
En raison de sa mise en examen.
Et quand il a eu la haxe, il a évidemment... Alors, il avait sans doute la tentation d'entrer au gouvernement il s'en fiche d'être ministre ou pas, mais pour qu'on reconnaisse que s'arrête cet ostracisme dont il a été victime. Et je pense que là, ça ne s'est pas très bien passé. Il a surréagi. Je crois que je l'ai dit en termes moi-même très vifs. Et je pense qu'il a tout à fait admis, sans l'avoir jamais reconnu, qu'il avait surréagi. C'est fini.
L'incident est clos. Le Modem est au cœur de la majorité présidentielle, comme l'a dit Gabriel Attal, au cœur de la majorité présidentielle.
Oui, c'était très frappant quand même. On a eu tous les leaders de la majorité, y compris M. Philippe, qui est aux antipodes, mais qui était présent par vidéo, mais était là, derrière la tête de liste aux européennes, et une démarche quand même très importante, qui était celle d'Hervé Marseille, président de l'UDI, président du groupe centriste, mais pas, qui n'était pas au MoDem, qui avait été, comme moi, à l'UDF, etc. Et tout le monde se rapproche. Je crois qu'il y a un effet de mobilisation et d'unité.
Alors ça, c'est important, parce que le MoDem, c'est 50 députés, enfin, c'est un groupe de 50 députés. C'est pas rien aujourd'hui, même si il n'y a pas de majorité absolue aujourd'hui pour le gouvernement et la majorité. C'est important, pourquoi ? Parce qu'on va parler de la manière de réduire le déficit, qui devrait dépasser, vous confirmez, les 5,5%.
Attendez, d'abord, c'est important pour l'Europe. Nous sommes convaincus que nous sommes confrontés à un plan triennal de M. Poutine, qui consiste à essayer de forcer les défenses en Ukraine, de disloquer, à la faveur de l'élection de Trump, si elle se produit, la solidarité atlantique, et en soutenant des forces très anti-européennes, comme celle de Mme Le Pen, de briser l'unité de l'Union européenne dans les 3 ans. Ça, c'est pour nous l'enjeu vital, c'est là-dessus que se reconstitue une majorité forte pour la défense de nos valeurs et de l'Union européenne. Alors maintenant, le déficit, je ne sais pas...
Voilà, le déficit, alors d'abord, plus de 5,5%, est-ce que vous confirmez ? On a presque l'impression de le découvrir d'un seul coup, comme si on soulevait le tapis et d'un seul coup, on voyait l'étendue des dégâts.
Moi, je suis aux affaires étrangères, je ne suis pas quotidiennement cette affaire-là, mais alors je ne suis pas du tout surpris du fait que les finances publiques soient en situation très difficile, car je trouve que on dépense beaucoup d'argent sans véritablement reprendre en main ce qui nous semble à nous nécessaire, c'est de reprendre en main structurellement l'organisation de l'État. Nous voyons bien que l'État coûte cher, on prélève beaucoup d'impôts, on dépense beaucoup d'argent, et que la qualité du service, c'est pas la faute des agents qui font ce qu'ils veulent, mais c'est à cause de l'organisation, la qualité du service n'est pas là. Les gens n'en ont pas pour leur argent. Et donc, ce que nous pensons, c'est que il ne s'agit pas de faire une politique de rabot. Ça ne mène à rien de raboter les dépenses.
De raboter un peu partout.
Oui, oui. On fait ça quand. Ce dont il s'agit, c'est enfin sérieusement de reprendre en main l'ensemble de la gestion publique du pays, non pas pour diminuer le nombre des fonctionnaires comme ça, non pas pour réduire la couverture sociale, mais pour faire en sorte que l'efficience et l'efficacité, l'efficience soient au rendez-vous et qu'on puisse enfin dépenser bien l'argent qu'on demande aux Français.
Ça passe par la nécessité de s'attaquer aux dépenses sociales, notamment à l'assurance chômage, notamment à celle des seniors, comme le dit Bruno Le Maire.
Ça passe... l'assurance chômage, le but il faut discuter, mais est essentiellement économique. Notre idée, c'est qu'il faut que plus... C'est pour ça que j'étais, moi, et que nous étions, madame, favorables à la réforme des retraites. Il faut augmenter la quantité de travail produite par les Français. Aujourd'hui, nous ne travaillons pas, nous ne produisons pas assez. Ce qui fait que nous dépensons plus que nous ne gagnons, que nous ne dépensons plus, que nous achetons trop à l'étranger. Et la première mesure de rétablissement des équilibres, c'est d'augmenter la croissance française.
Alors ça implique... Mais la croissance, ça ne se décrète pas.
Non, ça prend du temps. C'est pour ça que là, ce qui me gêne, c'est pas du tout...
C'est l'urgence.
C'est pas du tout l'insistance sur l'ambition. L'ambition, au contraire, elle doit être même beaucoup plus grande. Mais c'est l'idée qu'on va, en quelques semaines, régler un problème qu'on traîne depuis 40 ans.
Merci beaucoup, Jean-Louis Bourlange, député MoDem, président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée, à qui je conseille vivement d'être ce soir devant sa télé sur M6 pour regarder un documentaire sur le handicap, scandale et défaillance de l'État. Ça vous concerne ça?
Ben, je crois que c'est exactement... J'ai discuté avec... avant de rentrer dans ce... Nous avons dit un mot avec votre invité. Et je crois que c'est exactement dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on dépense de l'argent et qu'en réalité, le système n'est pas piloté. Voilà.
On va en parler tout de suite avec Esther Goldman. Merci, à tout de suite sur RTL.
Le Mac du dimanche, Vincent Parisot. RTL, le Mac du dimanche, avec Vincent Parisot.
Bonsoir Esther Goldman.
Bonsoir.
Réalisatrice d'un documentaire choc diffusé ce soir sur M6 dans Zone Interdite, les dossiers noirs du handicap, scandale et défaillance de l'État. On précise que c'est le fruit d'un long travail, plus d'un an passé aux côtés de ses enfants et de leurs parents, souvent à la recherche d'une place en institut spécialisé ou à l'école. Avant toute chose, parce qu'on ne va pas noircir sans raison un tableau déjà très sombre, faut quand même dire qu'en France, il y a 436 000 enfants porteurs de handicap qui sont scolarisés.
Oui, exactement. C'est un chiffre important qui ne cesse d'augmenter. C'est l'inclusion scolaire qui a été mise en place dans une loi de 2005 qui a été votée par le Parlement. Mais si vous voulez, je pense qu'il n'y a pas eu les moyens derrière nécessaires pour les accueillir dans les meilleures conditions.
Alors, dans votre enquête, par exemple, une de vos journalistes se fait embaucher comme accompagnant d'élèves en situation de handicap. On appelle ça les AESH.
Oui.
D'abord, ce qui frappe, c'est qu'on lui demande pas grand-chose.
Non, on lui demande aucune formation, ni au handicap, ni à l'enseignement. On lui demande juste un niveau bac.
Voilà.
Pour exercer ce métier, elle va être payée 800 euros par mois pour 24 heures par semaine. Elle est en CDD, donc très précaire. Et elle se retrouve dès le premier jour, sans aucune formation, je le répète, à prendre en charge 4 enfants en situation de handicap, avec des handicaps différents. Autisme, déficience intellectuelle, dyslexie. Donc, vous imaginez bien que c'est très compliqué.
Alors, elle est journaliste. Elle a pu filmer en caméra cachée ce que vit une jeune fille déficiente mentale dans une ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire. Et là, ce qu'on voit, je vous le dis tout de suite, c'est honteux, inadmissible. La pauvre élève, elle est invitée à regarder un dessin animé pendant que l'enseignante, censée s'occuper d'elle, préfère s'avancer dans l'établissement de son emploi du temps.
Oui, tout à fait. En fait, on est resté 3 semaines. Déjà, toute la première semaine, l'enseignante n'était pas là. Et ensuite, pendant 2 semaines, elle a fait ses emplois du temps. Donc, ce qui fait que cette petite, comme les autres enfants en situation de handicap, était en classe ordinaire, qui ne sont pas toujours adaptées pour eux. Donc, ils se retrouvent complètement perdus. Ils décrochent, ils perdent confiance en eux, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à suivre.
La petite, elle dit à son accompagnante, « Je veux être morte, je veux mourir. »
Oui, tout à fait, parce que l'enseignante ULIS lui fait comprendre qu'elle vaut pas grand chose, et donc elle dit ça. Donc l'AESH va voir l'enseignante en lui disant, mais écoutez, regardez ce qu'elle a dit. Elle dit, oh mais c'est pas grave, ça arrive. Elle a dû dire ça pour se rendre intéressante.
Alors évidemment, on va pas généraliser, mais c'est un cas, il a été filmé. Voilà, ça c'est très clair. Ce documentaire, il met aussi l'accent sur le manque de moyens. On est aussi assez étonné du délabrement des bâtiments. Des enfants qui mangent, qui travaillent, qui sont changés dans la même salle. C'est absolument ahurissant et personne ne se plaint et les parents ne le voient pas.
Alors, déjà sur le manque de moyens, je pense qu'il faut dire que le handicap a de l'argent. C'est-à-dire qu'en France, par an, c'est 55 milliards d'euros qui sont consacrés au handicap. C'est l'équivalent du budget de la Défense nationale. Donc c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Pourquoi les parents ne se plaignent pas toujours? C'est parce qu'il n'y a pas de place dans ces établissements spécialisés, que parfois ils peuvent rester sur les attentes pendant des années. On suit notamment le cas d'une mère de famille, Sandrine, dont le fils de 7 ans est 50e sur liste d'attente. Donc il y a une...
Mais son grand frère, il est en Belgique.
Oui.
Il a trouvé de la place en Belgique.
Oui, c'est une autre famille, mais oui, effectivement.
Ah, pardon.
Pas de souci, mais par manque de place, des familles sont obligées de vraiment s'exiler en Belgique. Donc, on suit une famille qui vit à Lyon et qui, donc, est obligée d'emmener son fils de 7 ans à plus de 1000 km de chez eux pour qu'il soit pris correctement en charge.
On va pas évidemment tout résumer en quelques minutes. Vous évoquez à la fin du documentaire un scandale financier.
Oui, tout à fait. En fait, on s'est rendu compte que les allocations logement que reçoivent les personnes en situation de handicap seraient détournées, en tout cas subtilisées, au profit des départements.
Bon, évidemment, c'est à voir. En conclusion, est-ce qu'on a le sentiment quand même que l'État, en France, abandonne ses enfants les plus faibles, ses familles les plus en difficulté?
Tout à fait. Tout à fait, la République abandonne les plus vulnérables d'entre nous.
Eh bien, c'est à voir, hein. Et évidemment, c'est assez édifiant ce documentaire que vous avez signé pour Zone Interdite, Esther Goldman. Merci d'être venue ce soir nous en parler sur RTL.
Merci à vous.
Vous avez l'heure exacte de
21h10.
Eh ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup.
Merci.
Une courte pause et dans un instant, on refait la planète. Alain Bourin-Dubourg est fin prêt. À tout de suite.
RTL. On refait la planète.
On refait la planète.
Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
On refait la planète, c'est parti. Comme chaque dimanche soir, juste avant 19h, on est avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain.
Bonsoir Vincent.
Chaque semaine, on nous propose, on vous propose un son de la nature. On doit tenter de le découvrir grâce à un indice. Vous nous donnez l'indice tout d'abord.
Cet insulaire est le plus grand de sa catégorie.
Donc il est sur une île.
Voilà, bon, une grande île, je peux même
dire. Une grande île. Et lui-même, il est grand.
Il est pas mal, oui.
Bon, écoutons-le.
Je l'ai écouté dans son île, c'est magique.
Ah oui.
Oui.
Écoutez, moi j'ai une petite idée, mais on verra ça à la fin de l'émission.
On refait la planète sur RTL.
Alors Alain, bon, c'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé, parce que c'est très théorique, mais en tout cas, depuis le 1er janvier, il n'est plus possible, sur le papier, encore une fois, de jeter ces débris végétaux, donc les épluchures de légumes, les coquilles de marc de café, dans notre poubelle, la poubelle classique. Pour sensibiliser le grand public, le réseau Compost Citoyen a donc décidé de répondre et de lancer l'opération Tous au compost. C'est donc de nous inciter à faire du compost. Ça va se dérouler du 23 mars au 7 avril. Et vous avez rencontré Cécile Brussière, qui est chargée du plaidoyer de cette association.
Oui, et je vais demander ce que représentaient les biodéchets dans nos ordures.
Les biodéchets, aujourd'hui, ça représente un tiers de nos ordures ménagères, à peu près 83 kilos par an et par habitant. On estime le volume à plusieurs kilotonnes de gisements de déchets en France. Et aujourd'hui, la majorité des déchets alimentaires ou des végétaux sont encore enfouis ou incinérés. Et c'est une aberration, en fait, à laquelle voulait mettre fin la loi AGEC.
Donc, une aberration, il faut trier nos biodéchets. Sauf qu'il y a eu donc une loi AGEC, elle vient d'en parler. Comment a-t-elle été mise en œuvre, cette loi ?
Cette loi anti-gaspillage et économie circulaire remonte à 4 ans. Et très franchement, on est loin du compte, même si quelques collectivités n'ont pas démérité.
Un certain nombre de collectivités qui sont compétentes en matière de déchets avaient commencé en fait bien avant la loi et avaient déjà mis en place des solutions, par exemple sous forme de compostage de proximité. On va dire que toutes les collectivités ne sont pas encore dans les clous de la loi et certaines ne le seront que dans 2 ou 3 ans.
Alors, quelles sont les méthodes, justement, pour faire du compost, Alain ?
Eh bien, figurez-vous que dans votre cuisine, oui, cher Vincent, oui, vous pouvez trier vos biodéchets,
ah bon,
et les composter. Il y a plusieurs méthodes.
La première solution, ça peut être le lombricompostage, qui consiste à avoir un petit compartiment avec des verres. Et ça prend très peu de place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut installer éventuellement dans une cuisine. On peut aussi composter en pied d'immeuble ou dans son quartier. Et on a aujourd'hui beaucoup de collectivités qui le font, parfois en complément avec d'autres solutions.
Donc le compost, ça commence à prendre, ouais, mais justement, quel est le but de cette opération Tous au compost ?
De sensibiliser davantage les citoyens, évidemment, grâce à près de 2000 événements dans toute la France, mais aussi de faire un sort aux idées reçues.
On veut mettre en avant le fait que toutes les matières organiques se compostent, notamment la viande et les agrumes, parce qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues et de clichés en fait sur ces produits. Souvent, on dit qu'on ne peut pas les composter, alors qu'en fait, ils se compostent très bien. À partir du moment où, par contre, on connaît les bons gestes en fait de compostage et qu'on respecte l'équilibre matière sèche et matière humide.
Voilà, donc il y a un équilibre à respecter dans le compost. Ouais. Le compostage, on en a parlé, cela dit, Alain, quand même, la priorité, c'est de lutter contre le gaspillage.
Oui, ça, je vous confirme. Ouais. 30 kilos de nourriture sont gaspillés par habitant et par an, dont, alors ça, c'est incroyable, 7 kilos jamais déballés.
C'est fou.
Alors, dans ces conditions, franchement, la France n'est pas la mieux placée dans le tri des biodéchets.
La France a à peu près 10 ans de retard sur de nombreux pays européens. On cite souvent l'Italie en exemple, notamment les villes de Milan et de Rome. Milan a mis en place la collecte séparée, donc en porte-à-porte des biodéchets depuis très longtemps. Et c'est un pays en fait qui a des très bons résultats, mais qui par contre ne s'est pas du tout orienté vers le compostage de proximité. Donc eux, ils se sont orientés d'abord vers la collecte.
Voilà, donc Cécile Brussière qui est chargée du plaidoyer de l'association Réseau Compost Citoyen. On en sait un petit peu plus sur le compost et on va en savoir encore un peu plus donc lors de cette semaine du 23 mars au 7 avril.
On refait la planète sur RTL.
Alors Alain, un événement à ne pas manquer et vous nous emmenez au musée.
Au musée, le MUBA, Eugène Leroy de Tourcoing, qui propose une exposition vraiment exceptionnelle, « Peindre la nature », paysage impressionniste du musée d'Orsay. En fait, à l'occasion des 150 ans de l'impressionnisme, le musée d'Orsay a prêté 150 chefs-d'œuvre de Monet, Renoir, Pissarro, Cézanne, Gauguin et bien d'autres qui sont à découvrir dans plus de 30 musées de France. C'est à Tourcoing que cet hommage à la peinture de la nature sera le plus imposant, avec quand même 58 chefs-d'œuvre exposés jusqu'au 24 juin.
On refait la planète sur RTL.
Allez Alain, on conclut l'émission comme chaque semaine par là où on l'a commencé, à savoir ce bruit mystérieux. On le réécoute. Ça, vous avez côté sifflet, ouais, sirène.
Vous avez dit que vous aviez une idée.
Alors, moi, je pensais à un petit singe, mais alors, j'ai pas le...
C'est un primate, mais c'est un lémurien.
Ah, c'est un lémurien.
On est à Madagascar et c'est l'Indri. C'est le plus grand des lémuriens, du reste.
Vous disiez que vous l'avez vu dans son environnement naturel.
Extrêmement émouvant. Et alors, comme ils sont dans les arbres, ils ont besoin d'échanger par des cris comme ça, très, très sonores, parce qu'ils vivent en petits clans. Et ce qu'on entend, c'est ces chants, là peuvent durer 3 minutes, et ça permet évidemment d'entretenir les liens du clan, mais aussi de renforcer les limites du territoire. Ouais. Quand je chante, tu viens pas chez moi.
Mais il paraît que là-bas, c'est un animal sacré.
Oui, parce que la légende veut qu'un Indri aurait sauvé un enfant dans la forêt, et depuis, ce lémurien est sacré. C'est pas pour autant que l'espèce n'est pas en voie de disparition.
Eh ben, vous faites bien de lui rendre hommage. L'Indri de Madagascar, aujourd'hui. Merci Alain, à dimanche.
Bonsoir Vincent.
On refait la planète sur RTL. RTL.
Il est 19h.
Heure 19h15, RTL dimanche soir. Avec Vincent Parisot.
Et pour ce journal, Rémi Jacob, bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
À la une, cette journée de deuil national en Russie après l'attaque terroriste de vendredi soir.
Et une stratégie de communication de Vladimir Poutine qui suscite de nombreuses réactions sur place, on vous dira tout. Également, toujours beaucoup d'émotions en Angleterre après l'annonce du concert de Kate Middleton. On entendra le décryptage de notre correspondante à Londres dans l'actualité. Également une information RTL qui concerne un fait divers peu commun. Ça s'est déroulé à Chatou, en région parisienne. Et puis, en fin de journal, on parlera musique avec l'Eurovision qui approche à grands pas. Notre représentant tricolore Slimane rencontrait ce week-end ses fans à Paris et il y avait de l'ambiance.
Et dans un quart d'heure, ce sera à vous de jouer, Isabelle Langer, de refaire le sport avec le vainqueur d'un duel fratricide.
Oui, les frères Lebrun seront avec nous. C'est le grand frère qui a encore battu le petit, qui n'a jamais réussi encore à battre l'aîné. Bref, ça, c'est une histoire de famille. On les aura en ligne avec nous depuis Montpellier. Et puis invité également en studio, Jérémy Roubin, le secrétaire général de l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage. On va parler de tout ce qui va être mis en place, notamment pour Paris 2024.
À tout à l'heure Isabelle, pour refaire le sport dans moins d'un quart d'heure.
RTL dimanche soir.
C'était donc un dimanche de deuil national en Russie.
Et cela 48 heures après l'attaque qui a eu lieu dans une salle de spectacle dans la banlieue de Moscou, avec un bilan provisoire de 137 victimes, dont 3 enfants, ont indiqué en milieu d'après-midi les enquêteurs russes. Dès hier à la télévision, Vladimir Poutine a pointé du doigt la responsabilité des Ukrainiens, sans mentionner l'État islamique qui a pourtant revendiqué cet attentat. Une stratégie de communication qui suscite évidemment beaucoup de réactions en Russie. Romanova Ekaterina est journaliste à Moscou. Elle nous raconte que sur place, les opinions sont partagées, même si au final, les habitants semblent plutôt croire à la version de Vladimir Poutine.
Il y a tellement d'opinions différentes en ce moment. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais c'est tellement facile de tomber dans le piège de dire que c'est l'Ukraine ou l'État islamique, parce qu'un camp n'accepte pas les arguments de l'autre. Comme on a pu le voir, les terroristes ont été arrêtés alors qu'ils prenaient la direction de la frontière ukrainienne. À cause de ça, tout le monde pense qu'il y a au moins un lien avec l'Ukraine. L'État islamique est peut-être impliqué, mais ça peut aussi être les deux ensemble. Je sais que les forces spéciales russes feront tout leur possible pour comprendre qui est derrière l'attaque et pour mettre au clair toute cette affaire.
Special forces will make everything to make it clear.
Propos recueillis pour RTL par Célestin Bougère. À noter que dès hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi à ces accusations. On l'écoute.
Ce qui s'est passé à Moscou est clair. Et Poutine et les autres racailles tentent de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Au lieu de s'occuper de ces citoyens russes et de s'adresser à eux, cet idiot de Poutine est resté silencieux pendant une journée entière. Il réfléchissait à comment lier cela à l'Ukraine. Poutine va essayer d'exploiter cela pour son pouvoir personnel.
Voilà, donc pour la réaction de Vladimir Zelensky. En Angleterre, l'annonce du cancer de Kate Middleton continue bien sûr de susciter beaucoup d'émotions.
De la part des Britanniques évidemment, mais également de la princesse de Galles elle-même. Et cela après les nombreux messages de ses compatriotes reçus tout au long du week-end. Le décryptage sur place de la correspondante de RTL, Sidonie Gaucher.
Beaucoup d'émotions dans la presse anglaise depuis la vidéo de la princesse de Galles. D'abord un déjeuner partagé avec le roi quelques heures avant de publier la vidéo du diagnostic de son cancer. Au château de Windsor, ils ont eu une conversation à cœur ouvert. Ensuite, le fait qu'elle ait écrit elle-même son message d'annonce, un tour de force de communication, selon les analystes de la famille royale, un pied de nez au Kate Gate joué avec dignité et émotion, peut-on lire, et qui redore le blason de la communication de la famille royale, selon la BBC. Et pour le coup, c'est le service de presse qui s'est chargé de passer les remerciements de la princesse pour les messages de soutien qu'elle a reçus, non sans insister sur le fait qu'elle se tiendra éloignée des réseaux sociaux qui ont, malgré l'annonce, continué de fleurir de théories complotistes. Enfin, le message subliminal à l'approche des vacances de Pâques est, toujours selon la BBC, le droit au respect de la vie privée, loin des rumeurs et des spéculations.
Sidonie Gaucher, correspondante de RTL à Londres, et des messages de soutien qui se sont également multipliés aux quatre coins du monde, à l'image du président américain Joe Biden qui a indiqué prier pour la princesse Kate Middleton.
Allez, une courte pause à 19h05 sur RTL et dans un instant, on vous parle de cet homicide étonnant résolu sans enquête ou presque. À tout de suite.
Vincent Parisot. RTL dimanche soir. RTL dimanche soir avec Vincent Parisot
et Rémi Jacob pour ce journal. D'ailleurs Rémi, vous nous parlez d'un fait divers, on va dire assez peu commun, ça s'est passé à Chatou en Ile-de-France.
Oui, une information RTL que nous vous dévoilons ce soir et cela concerne un mystère résolu, vous allez l'entendre, en grande partie sans enquête de police. Tout commence, Plana Radenovic, avec un drôle d'appel téléphonique.
Oui, un type d'appel plutôt rare, passé au 17 cette nuit, peu avant 2h du matin. Un homme de 27 ans s'incrimine. Il avoue avoir poussé quelqu'un dans la Seine 3 jours auparavant. La victime est décédée, dit-il. Le jeune homme donne ensuite rendez-vous aux policiers à Paris, dans le 16e arrondissement, devant un salon de coiffure. Lorsque les forces de l'ordre arrivent, l'homme les attend. Il porte un masque chirurgical, comme il l'avait indiqué par téléphone, et il réitère ses aveux, le même récit. Il dit avoir obéi à des voix. L'homme souffre de problèmes psychiatriques. Il est cependant interpellé et placé en garde à vue. Mais selon les premiers éléments que nous avons pu recueillir, les investigations semblent accréditer les propos du jeune homme. Un corps a en effet été retrouvé dans la Seine le 19 mars, à quelques kilomètres de Chatou, la commune où l'homme dit avoir poussé sa victime.
Merci beaucoup, Plana Radenovic, du service police-justice de RTL.
À l'approche de l'Eurovision, le représentant français, qui est, je vous le rappelle, Slimane, a rencontré ses fans ce week-end à Paris.
Eh oui, vous l'entendez avec cette musique, le compte à rebours a débuté. Le 68e concours de l'Eurovision aura lieu le 11 mai prochain. Alors ça se déroulera cette année à Malmö en Suède. Et vous l'avez dit Vincent, c'est Slimane qui portera les couleurs tricolores avec sa chanson « Mon amour ». Et ce week-end, eh bien, les membres du club des amateurs de l'Eurovision étaient réunis à Paris pour une rencontre avec le chanteur. Le reportage de Laurent Marsic.
Ce sont près de 200 fans qui ont accueilli bruyamment et joyeusement leur chanteur. Slimane.
Grand merci à toi d'être là parmi nous.
Bon, non, je suis trop content.
Le chanteur qui est en ce moment en tournée a pris le temps de venir échanger avec les fans et leur redire qu'il ne concourt pas à l'Eurovision par hasard.
Quand on nous dit qu'à un moment donné, notre chanson, peut-être qu'elle va être écoutée par 220 millions de gens, c'est juste un rêve pour quelqu'un qui écrit des chansons. J'ai jamais été chanté en Europe, à part en Belgique et en Suisse. Donc, franchement, c'est trop cool.
Slimane, comme les 36 autres participants, tentera de décrocher la victoire en finale à Malmö, en Suède. A-t-il des chances? Réponse de Benoît Blazic et Stéphane Chiffre de l'OGAE France, le club français des amateurs de l'Eurovision.
Moi, je dirais que Slimane, il est dans le top 5, je crois, favori au niveau des clubs. Il a fait des prestations en Croatie qui étaient exceptionnelles et qui ont déstabilisé tout le monde. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer ces années. Mais enfin, bon, chaque année, je dis ça.
Puis l'Eurovision, c'est aussi une campagne. On va jusqu'à Malmö soutenir Slimane.
Et nous aussi, on a envie d'y croire. Réponse le 11 mai autour de minuit et demi.
Bon, j'espère que j'aurai un beau cadeau le 11 mai pour vous. Hein.
Reportage signé Laurent Marsic pour RTL. Et tiens, question Vincent, Isabelle, oui. Est-ce que vous y croyez à la victoire française cette année avec Slimane?
Moi j'avais 13 ans en 77, la fois où on a gagné, vous souvenez?
Oui, oui, je me souviens.
Marie Myriam.
J'étais toute petite, mais...
L'oiseau et l'enfant.
Oui, on peut chanter? Non.
Vous en souvenez de la
Oui, je m'en souviens très très bien.
Ah bon?
Comme un enfant.
Eh ben voilà, c'est ça. Il faut dire que depuis chaque année, ben, on y croit.
On y croit. On y
petit
croit
à petit,
bien,
on y croit de moins en moins, mais cette année avec Slimane, quand même, effectivement, on peut y croire.
On croise les doigts et on termine ce journal avec la météo. C'est avec vous, Valérie Quintin, avec demain de la fraîcheur et du soleil, sauf vers les Pyrénées et en Bretagne.
Deux opposés qui vont perdre le soleil avant la fin de la journée au profit de pluies qui seront généralement faibles dans un premier temps. Ailleurs, les éclaircies domineront très largement demain, mais il faudra tout de même prévoir des nuages plus denses l'après-midi. Sur une très large moitié ouest côté Mercure, la matinée sera saisissante avec le retour de quelques gelées dans les régions centrales, dans les vallées des Alpes ou encore en Picardie. Peu de changements l'après-midi, une fourchette de 11 à 21 degrés du Finistère au Béarn, 12 degrés à Paris, à Lille et à Colmar.
Merci beaucoup Valérie Quintin.
Et merci à vous Rémi Jacob pour ce journal. Ne partez pas trop loin parce que vous revenez à 20h pour d'autres infos. Maintenant c'est à vous de jouer et de refaire le sport, Isabelle Langer. Il y a du ping au programme.
Exactement, du tennis de table avec les frères Lebrun, Alexis et Félix qui seront en ligne depuis Montpellier. Et puis invité en studio avec nous, Jérémy Roubin, le secrétaire général de l'AFLD. On va parler de dopage et de prévention surtout.
Belle soirée avec RTL.
RTL Dimanche.